France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Dernier épisode de notre semaine consacrée à l'égyptologie. On rencontre l'un des grands spécialistes de l'Égypte pharaonique, Pierre Tallet, est notre invité. Depuis 1987, cet archéologue explore l'extraordinaire richesse de la civilisation égyptienne. Ces dernières années, il est à la tête de découvertes majeures. Au Sinaï, il met à jour des inscriptions rupestres qui révèlent des pans méconnus de l'histoire pharaonique et qui comptent, pour certaines, parmi les premières traces de l'écriture en Égypte. Sur les rives de la mer Rouge, il a exhumé les plus anciens papyrus jamais retrouvés, qui datent de 2550 avant notre ère. Une documentation exceptionnelle qui nous plonge dans le quotidien des Égyptiens d'époque et qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Pierre Tallet, les papyrus font de la résistance. Bonjour Pierre Tallet.
Bonjour.
Vous êtes professeur, désolé pour ce titre, vous êtes professeur d'égyptologie à Sorbonne Université, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, et vous publiez Cuisine et saveurs de l'Égypte ancienne aux éditions Actes Sud. Merci d'être avec nous.
Merci.
Merci beaucoup d'être là et merci à vous d'être au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à suivre cette émission sur Blue Sky. Tous les jours, nous publions pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @CQFD. Alors, que viennent nous apprendre ces vestiges sur la vie quotidienne durant l'Antiquité égyptienne? Que racontent-ils de l'organisation du pouvoir et comment avez-vous vécu ces différentes missions archéologiques? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Qu'est-ce qui caractérise l'égyptologie actuelle? La question est posée en 1960.
Ce qui caractérise l'égyptologie actuelle est un changement complet des méthodes. Et c'est, je pense, de ces changements, de ces modifications intervenues dans la façon de traiter la matière, qu'on aurait intérêt à nous entretenir, en y accrochant, à titre d'exemple, des faits, des résultats particulièrement importants ou pittoresques.
Il faut dire que ces méthodes sont avant tout fonction des sources, des matériaux eux-mêmes. Ces matériaux sont fournis d'abord par les fouilles, d'autre part par l'épigraphie, c'est-à-dire le relevé sur les monuments, sur place, sur les temples encore debout, ou dans les musées, de textes sur pierre. C'est également la paléographie, branche de l'épigraphie, qui s'occupe essentiellement des textes écrits en cursive sur papyrus. Et il faut le rappeler, en dehors des matériaux fournis par les fouilles, il y a beaucoup de documents qu'on trouvera dans les musées eux-mêmes.
Un extrait de l'émission La science en marche et la voix de Georges Posner et Jean Yoyotte, tous les deux égyptologues, sur la RDF en 1960. Pierre Tallet, pour compléter, commenter cette archive, quel est le visage de l'égyptologie aujourd'hui au XXIe siècle?
Alors ce visage n'a pas entièrement changé, on est toujours en train de rechercher des informations au travers de campagnes de fouilles sur le terrain qui apportent chaque année des informations nouvelles. Peut-être peut-on apporter quand même une petite nuance par rapport à cette époque relativement lointaine. Finalement, beaucoup d'informations ne viennent pas forcément de l'écriture. L'égyptologie a été finalement, notamment chez les Français, très fortement marquée par l'écriture, bien évidemment avec le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique par Jean-François Champollion, mais elle n'est pas la seule source d'informations. On a encore beaucoup d'autres canaux pour pouvoir apprendre des choses sur l'Égypte. Et lorsque l'on fouille sur un chantier, justement, eh bien, l'analyse des restes organiques, de la poterie, des restes fauniques que l'on a, des aliments qui ont pu être consommés par les gens qui ont vécu sur ce site, est devenue extrêmement importante pour affiner notre connaissance de la façon dont les gens ont pu vivre à des époques très anciennes.
On va parler évidemment des différentes fouilles que vous avez entreprises, des informations que vous avez réussi à extraire de ces vestiges archéologiques. Mais d'abord, peut-être un mot sur la naissance de votre passion. Vous êtes né en 1966 à Talence, en Gironde. Vous avez toujours voulu faire de l'archéologie?
Alors je pense que oui, finalement l'archéologie a été une sorte de fascination très tôt dans mon parcours personnel, même si elle n'était pas forcément entièrement orientée sur l'Égypte. Mais je me souviens qu'un de mes profs d'histoire en seconde m'a ressorti 10 ans plus tard une fiche dans laquelle j'avais dit que je voulais être historien et archéologue. Et finalement, au bout du compte, j'étais arrivé à peu près à faire ce que je souhaitais faire. Mais il n'y a pas eu que l'Égypte, hein. J'étais toujours fasciné aussi par la Grèce ancienne, et il y a eu aussi toute une série de hasards qui m'ont porté vers l'Égypte.
Mais alors pourquoi l'Égypte finalement?
L'Égypte est quand même un pays absolument fascinant pour les vestiges archéologiques notamment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ailleurs dans le monde un pays où il y a une telle concentration de vestiges archéologiques. Et puis c'est fascinant de remonter si loin dans le temps, justement. C'est une civilisation véritablement les plus anciennes. Et évidemment aussi la fascination de l'écriture, je ne la renie pas, est tout à fait importante dans ce parcours.
J'imagine pour se frotter à une civilisation telle que l'Égypte pharaonique, il faut maîtriser un grand nombre de facettes et de connaissances pour pouvoir explorer ne serait-ce qu'un pan de cette histoire.
Évidemment, la formation d'un égyptologue est assez longue, parce que pour pouvoir justement maîtriser les sources, il faut apprendre notamment le déchiffrement de la langue égyptienne. Et cette langue, il faut la suivre sur une grande durée, puisque elle évolue sur presque 3000 ans. Donc les sources elles-mêmes vont être rédigées dans des textes, dans des écritures qui sont différentes, dans des états de la langue qui sont différents. Et puis la documentation est extrêmement vaste, donc il y a besoin d'une forme d'accoutumance à la documentation que nous étudions, avec des matériaux souvent très 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 abondants. Donc il s'agit effectivement d'une formation très très longue. Et puis il y a besoin aussi peut-être d'une formation un peu classique, la formation de l'historien qui est celle de base, qui permet de maîtriser des sources, de les critiquer, de les évaluer et de ne pas prendre en compte au premier degré tout ce qu'on y trouve.
Mais votre formation est en effet à l'image de ce que vous êtes en train de nous raconter. De 1987 à 91 à l'ENS d'Ulm, vous passez une licence d'histoire, une licence de lettres classiques, une maîtrise d'égyptologie, une agrégation d'histoire. Votre thèse en 92, j'aime beaucoup les thèses. À la Sorbonne, vous soutenez en égyptologie cette thèse, le vin en Égypte à l'époque pharaonique. Une thèse sur le vin, ce sont vos origines girondes qui vous rattrapent ?
Ah, je pense que oui. Alors, de vin, j'aime bien. Donc, je dirais que je sors très rarement de mon sujet, d'une certaine façon. Et puis, mon grand-père était vigneron aussi, en fait. C'est quelque chose qui est un viticulteur. C'est quelque chose qui m'a marqué malgré tout. Et puis, ce sujet était très sympathique parce que, au-delà, justement, de l'incompréhension qu'on aura toujours du vin égyptien, on ne pourra jamais le goûter, on ne pourra vraiment jamais expérimenter son goût. Mais on a quand même une sorte d'enquête que l'on peut faire sur les techniques qui pouvaient être utilisées pour le conserver, les conditions dans lesquelles il était consommé. Ça a toujours été un produit de luxe en Égypte et donc au travers de sa consommation, on apprend beaucoup de choses sur les Égyptiens. Donc je dois dire que ce sujet m'avait beaucoup intéressé et je me suis beaucoup amusé à faire cette thèse.
Mais comment on étudie justement la viticulture égyptienne des vins d'époque aussi lointaine ?
Alors les vins, on les connaîtra peut-être jamais, mais on a beaucoup de sources malgré tout. Et le paradoxe, c'est que l'Égypte n'est pas un pays où la vigne est autochtone. La vigne a été très tôt importée sur le sol égyptien parce que les premiers rois de l'Égypte ont trouvé le produit vin très intéressant très vite. Et ils ont eu assez vite l'envie de ne plus tout importer du Proche-Orient, mais d'avoir sur place leur propre vigne. Et donc on a en Égypte des indications sur le circuit économique du vin, des empreintes de seaux, des jarres à vin. On a énormément de sources iconographiques qui nous rapportent le cycle de la production viticole. On va voir les vendanges, on va voir le pressage et la mise en jarre du produit. Alors évidemment, toutes ces sources ne sont pas forcément toujours à prendre au premier degré. Elles omettent beaucoup de choses, mais elles sont déjà là. Et le paradoxe, c'est finalement, même pour un pays qui n'est pas au départ le premier à avoir inventé la viticulture, c'est l'un des premiers à nous montrer les images de la production de ce vin.
Et puis vous avez aussi réuni des étiquettes de jarres à vin, à peu près 5000 durant votre thèse.
Alors les étiquettes de jarres à vin, ça c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire parce que on a sur une époque bien précise, qui est le Nouvel Empire égyptien, une période qui s'étend grosso modo entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, la pratique qui se développe d'écrire sur la panse de grosses jarres vinaires une inscription en hiératique. Le hiératique, c'est l'écriture cursive qui correspond aux hiéroglyphes et qui était d'ailleurs employée plus régulièrement par finalement les scribes qui avaient une fonction d'enregistrement économique. Et donc cette écriture hiératique donne toute une série d'informations. La date de production du vin, sa qualité. On a également le domaine producteur, on a le destinataire de ce vin et très souvent on a également le nom du vigneron qui a été responsable d'une équipe qui a produit la jarre. Alors avec ces informations qui sont presque aussi précises que celles qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur une bouteille qui viendrait de Bordeaux par exemple, on peut arriver à avoir une idée de la carte des vignobles à l'époque pharaonique. On peut aussi avoir une approche de la qualité de ce vin. On se rend compte montre qu'il y a toute une série de propriétés, de techniques qui sont appliquées au vin pour le sucrer davantage et sans doute d'ailleurs le faire monter en alcool et le conserver mieux. Et on a donc également évidemment une carte des consommateurs institutionnels de ce produit.
Vous dites que ce sera impossible de goûter ce vin, mais même avec les progrès de l'archéologie expérimentale.
Alors on a retrouvé des jarres intactes, hein, dans la tombe de Toutankhamon, il y avait une vingtaine de jarres à vin qui étaient encore scellées, et à l'intérieur on a une accumulation de lits qui permettent d'analyser ce vin, de savoir parfois quelles étaient les techniques qui avaient été employées pour le produire. Maintenant non, je pense qu'on ne pourra pas véritablement savoir, on peut essayer de faire de l'archéologie expérimentale pour le reproduire bien évidemment, mais on n'aura peut-être jamais la chance qui est arrivée pour l'époque gréco-romaine. Certains collègues avaient trouvé dans une épave des jarres à vin encore fermées et on a pu en extraire un jus rougeâtre qui était du vin, et je sais que certains de ses collègues ont goûté le vin. Il ne devait plus être très très bon, mais ils ont eu cette expérience, je dirais, tout à fait exceptionnelle de goûter le vin. En Égypte, je pense que depuis maintenant 3 ou 4 millénaires, il y a peu de chances qu'on retrouve un vin à l'état liquide.
À propos d'expériences exceptionnelles, j'ai une question difficile, Pierre Tallet, mais quel est votre plus beau souvenir de terrain ?
Alors je pense qu'en fait, les plus beaux souvenirs sont ceux de la découverte, et notamment de la découverte d'inscriptions rupestres. Alors quand on circule par exemple dans le désert du Sinaï, quand on est à la recherche de matériel, en fait on cherche en prospection des sites archéologiques, des vestiges d'habitat, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber face à face avec finalement une paroi inscrite en hiéroglyphes, et en fait on a une sorte de contact direct avec l'Antiquité. Les informations arrivent directement, immédiatement, sous les yeux, et là, j'ai ressenti, ça n'est pas arrivé si souvent que ça, mais vraiment une impression extrêmement forte de la découverte à l'état pur, pratiquement.
Vous arriverez à décrire ce que c'est justement d'être en face de quelque chose qui n'a pas été lu depuis des millénaires ?
C'est un plaisir absolument intense d'avoir une information qui nous parvient à travers les âges de cette façon-là, de redécouvrir par exemple le nom de la personne qui a écrit. Alors c'est valable pour toute forme de source écrite que l'on peut découvrir en Égypte, mais je dirais que la présentation immédiate, sans fouille archéologique, de ce que l'on peut trouver gravé par exemple sur un rocher, c'est peut-être effectivement l'impression la plus forte que moi j'ai connu, au moins dans le cadre de ces expériences scientifiques.
Alors comment avez-vous justement découvert ces inscriptions rupestres qui révèlent des pans méconnus de l'histoire pharaonique ? De quelle nature sont ces panneaux inscrits, retrouvés à différents endroits de fouilles au Sinaï ? Restez à l'écoute, on vous emmène.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
C'était France Culture et nous avons la joie de nous entretenir une heure avec l'archéologue Pierre Tallet. On vient de parler de votre parcours, de votre passion pour l'Égypte, de votre thèse sur le vignoble égyptien, notamment à l'époque du Nouvel Empire. Parlons maintenant de votre première découverte majeure, le site de Wadi Maghara. C'est le premier site à avoir été exploité par les Égyptiens. Littéralement, ça signifie la vallée aux caves. On peut peut-être rappeler quelle est l'importance historique de ce site.
Alors les Égyptiens ont eu un intérêt pour le Sinaï très très tôt dans leur histoire, parce que le Sinaï, c'était l'endroit où ils pouvaient trouver notamment des ressources en cuivre importantes, qui étaient absolument nécessaires à l'époque où le cuivre, le bronze, c'est le métal de référence pour notamment la construction monumentale. À l'époque des pyramides, il faut du cuivre pour tailler des blocs, pour pouvoir construire les monuments. Ils y trouvaient également une pierre précieuse, enfin une pierre semi-précieuse, la turquoise, une pierre bleue ciel, qui peut évoquer justement la couleur du ciel au moment du lever du soleil, et qui avait pour eux une importance symbolique assez forte. Donc ils ont été très tôt au Sinaï, et effectivement ce site du Wadi Maghara, qui était le premier à avoir été découvert, en tout cas celui qui présentait les vestiges les plus anciens, gardait des panneaux inscrits au nom des rois de l'ancien empire égyptien, à partir du roi Djoser, hein, qui est le fondateur de l'ancien empire, autour de 2700 avant Jésus-Christ. Et on avait sur ce même site des panneaux des rois des 4e, 5e, 6e, dynastie, grosso modo pour une période qui va entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Ces panneaux sont très explicites parce que vous avez dessus des représentations du roi. Le roi qui massacre le bédouin et prend possession de l'espace dans lequel on va exploiter des mines de turquoise et des mines de cuivre. Et puis vous avez aussi des postures du roi où on le voit effectuer en quelque sorte une définition de son pouvoir monarchique. On le voit successivement coiffé de la couronne de Basse-Égypte et puis de la couronne de Haute-Égypte. Et à côté de ces représentations royales, on a très souvent aussi des comptes rendus d'expédition qui nous rapportent qui est venu diriger l'expédition, parce que le roi ne venait pas en personne, et quels sont les membres de la troupe qui pouvaient accompagner donc les mineurs qui venaient sur place exploiter le cuivre et la turquoise. Donc grâce à cet ensemble de monuments, eh bien on a des informations historiques de toute première importance sur le Sinaï, et le Wadi Marara donnait l'impression que finalement les Égyptiens étaient venus au Sinaï à partir d'une période que l'on pourrait identifié à 2700 avant Jésus-Christ.
Et vos découvertes, justement, ont repoussé dans le temps, justement, cette exploitation, ces expéditions au Sinaï. Ça, c'est une découverte que vous commencez. C'est une découverte en deux temps. La première se déroule en 2009, puis ensuite viendra 2012.
Voilà. Alors, en fait, on a retrouvé un peu plus au nord que la zone qui était traditionnellement connue pour l'exploitation minière des Égyptiens, deux sites qui sont d'ailleurs très, très voisins, successivement. Le premier, en 2009, il y avait sur un grand rocher des représentations du roi Den, qui est un roi de la première dynastie. On peut situer son règne autour de 2900 avant Jésus-Christ, et on le voyait successivement toujours en train de massacrer le bédouin, ce qui devient un thème récurrent par la suite, mais qu'il inaugure pratiquement sur ces panneaux rocheux, accompagné d'un certain nombre de personnages officiels de son règne, et avec quelques indications, je dirais, inscrites, qui permettaient d'identifier les personnages, et sans doute déjà d'expliquer qu'on venait chercher de la turquoise. Alors cette découverte a été d'une part très intéressante, mais un peu décevante, parce que au moment où je suis arrivé sur ce site, eh bien le panneau avait déjà été vandalisé par sans doute les bédouins qui devaient chercher de l'or et pensaient que derrière les bas-reliefs on allait avoir des trésors cachés. Et c'est d'ailleurs finalement un problème qui peut se poser de façon assez régulière dans cette région de l'Égypte. Mais quelques années plus tard, en fait, j'ai eu la chance de trouver un deuxième site, pas très très loin, et qui était finalement encore plus important, puisque lui, il nous apporte une séquence chronologique qui commence autour de 3200 avant Jésus-Christ et va jusqu'en 2800 avant Jésus-Christ. Donc, on s'est rendu compte, au travers de cette documentation, que les Égyptiens avaient été présents au Sinaï 5 siècles plus tôt, pratiquement, que la période que l'on pensait être celle de l'exploitation du Sinaï par eux à l'Ancien Empire.
5 siècles plus tôt, et puis surtout, on a là les plus anciennes inscriptions rupestres connues en Égypte.
Alors c'est pratiquement les plus anciennes, il y en a d'autres qui sont anciennes effectivement, mais avec une telle concentration on en a très très peu, et c'est encore un coup de chance d'avoir trouvé ce matériel, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui ont cherché les inscriptions au Sinaï, et moi j'avais eu la chance de m'entendre assez bien avec les bédouins de la région, et l'un d'entre eux m'avait dit, mais écoute, viens avec moi te promener au Sinaï, je te montrerai toutes les inscriptions que je connais. Et on a passé effectivement, avec mon collègue Damien Lenné, topographe qui travaille avec moi sur pratiquement tous les chantiers, on est passé sur des dizaines de sites pour voir des dizaines d'inscriptions de différentes périodes, et pratiquement le dernier jour de cette promenade, eh bien on est venu sur un site qui au départ ne ressemblait à rien du tout, une sorte de plateau rocheux avec des petits cairns, des petites accumulations de rochers empilés. Bon, on s'est dit c'est intéressant, mais c'est pas spectaculaire, on sait pas du tout de quelle période peut être cette occupation que l'on voit en surface. Et puis la personne qui nous accompagnait nous a fait signe, mais non, mais il faut regarder un peu plus loin. Et effectivement, en contrebas de ce plateau, sur une grande face rocheuse, on avait des séquences d'inscriptions. Alors, il y a 5 panneaux différents qui s'échelonnent entre 3200 et 2800 avant Jésus-Christ. Et on voit, au travers de ces panneaux, le développement, justement, de l'expression des Égyptiens dans le cadre de ces inscriptions rupestres.
Vous voulez dire qu'on a accès directement à l'évolution même d'une écriture ?
Bien sûr, en fait, on a là, sans doute, la consécration du passage de 5 expéditions différentes. Et la première des inscriptions, la plus ancienne, on voit simplement de très grandes barques qui sont représentées, des barques qui sont un élément de prestige dans lesquelles le roi de l'Égypte se reconnaît au tout premier temps de l'histoire, avant les premiers rois qui sont enregistrés par l'histoire, d'ailleurs. Et sur ces barques, on avait simplement une sorte de petite cabine avec un faucon perché dessus. Le faucon représentant le roi. Mais pas d'écriture véritable. Là, simplement, un processus d'identification du roi. Et stylistiquement, on pouvait rapprocher ce faucon et ses barques d'une période qui correspond à la période archéologique de Nagada 3. C'est la fin de la préhistoire égyptienne, si l'on peut dire. Et on est autour de 3200-3300 avant Jésus-Christ. Et puis quand on passait au panneau suivant, bien on voyait progressivement toujours des barques représentées, mais avec une intrusion, je dirais, de plus en plus importante de l'écriture pour nommer des personnages, pour nommer le roi lui-même. On a pratiquement le premier roi qui a laissé sa trace dans l'histoire égyptienne, qui s'appelle Irior, qui apparaît au-dessus de l'une des barques qui est représentée sur le deuxième des panneaux. Puis on a un panneau au nom du roi Narmer, premier roi de la première dynastie, et on a un panneau au nom du roi Djer, qui est le troisième roi de la première dynastie. Et le dernier panneau, ça n'est plus que de l'écriture, pratiquement. Il n'y a plus beaucoup de thèmes iconographiques, mais il y a seulement des inscriptions pour identifier les différents personnages qui sont passés sur le site.
Être au contact des balbutiements du système d'écriture. Mais alors, qui a gravé les panneaux du Sinaï des scribes? A-t-on une idée des auteurs de ces panneaux-là?
Alors je pense qu'on en a une idée parce que la plupart du temps, ils nous ont laissé leur nom. Dès qu'ils savent écrire, ils laissent leur nom. Ce ne sont pas évidemment les rois qui sont mentionnés, qui sont venus en personne, mais il y a eu des chefs d'expédition, des gens qui encadrent la troupe, qui sont des lettrés et qui sont capables de graver sur les rochers des inscriptions qui sont à leur nom. Alors d'abord, ils mettent le roi. Parfois, ils insistent sur un certain nombre de symboles qui peuvent permettre d'identifier le roi, comme par exemple ces grandes barques cérémonielles dans lesquelles le roi se reconnaît volontiers. On a dans un cas une scène de massacre, où on voit un personnage en train de massacrer un bédouin, là encore, mais on n'a pas véritablement autant d'identification que pour les époques postérieures. Et puis dès l'instant que l'écriture commence à devenir un peu plus répandue, un peu plus pratique, je dirais, dans la vie quotidienne de ces personnages, eh bien autour du règne du roi Narmer, il y a deux, trois signatures qui sont probablement celles des responsables de l'expédition.
La fonction de ces panneaux, elle n'est que commémorative ?
Alors, très vraisemblablement, elle est commémorative. Le Sinaï est une contrée relativement lointaine pour les Égyptiens, et le milieu est assez hostile, donc c'est finalement une sorte d'exploit de se rendre dans cet endroit. Mais il y a probablement aussi, au travers de ces inscriptions, une forme de prise de possession des lieux. C'est-à-dire que finalement, par rapport à la population locale, on affiche en quelque sorte que ça y est, c'est fini, hein, maintenant c'est égyptien. Et je pense que dans le cas de ce site du Wadi Amera, c'est assez clair, parce que l'inscription la plus ancienne, la plus grande barque avec la première identification d'un roi égyptien, recoupe une représentation rupestre de Bouctin plus ancienne qui avait certainement été laissée par des populations locales. Donc en superposant un appareil égyptien parfaitement reconnaissable et je dirais assez impressionnant au-dessus de ce que pouvaient faire les populations locales sur les mêmes rochers, oui, il y a une sorte de prétention à la propriété des lieux.
Alors, moralité de l'histoire, il y a des expéditions au Sinaï sur pratiquement un millénaire, entre 3200 et 2200 avant notre ère.
Alors ça continue même bien plus tard, puisqu'après l'Ancien Empire, on a d'autres sites qui sont exploités. Le site de Serabit el-Radim, qui a été ouvert au Moyen Empire égyptien, c'est la période qui va de 2200 à 1800 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, on a à nouveau une période importante de présence égyptienne au Sinaï, au Nouvel Empire égyptien, entre 1500 et 1100 avant Jésus-Christ à peu près. Donc l'Égypte n'est pas toujours capable d'organiser des expéditions dans ces milieux éloignés. Mais à chaque fois que l'État est solide et bien construit, eh bien ces expéditions sont une chose importante pour la monarchie égyptienne, au moins tout le temps que le cuivre reste le métal de référence.
Voilà, puisqu'on est en effet dans l'âge du bronze, le cuivre est un métal de référence, on en a besoin pour l'outillage et aussi pour les fameuses pyramides qui sont en construction à ce moment-là.
Oui, évidemment. Alors, il y a certainement d'ailleurs un changement d'échelle dans l'exploitation du Sinaï à l'époque de l'Ancien Empire. Et à l'époque, on commence à avoir des monuments géants quand on commence à construire des pyramides d'une centaine de mètres de haut, comme c'est le cas par exemple des pyramides de Snéfrou à Dachour ou à Meidoum, on est autour de 2600 avant Jésus-Christ, ou encore bien évidemment des pyramides de Giza, qui celle de Khéops fait plus de 140 mètres de hauteur. Et bien là, on a besoin d'une masse de pierres absolument exceptionnelle, et évidemment l'outillage qui est nécessaire pour tailler ces blocs devient exponentiel. Et donc, les Égyptiens sont présents au Sinaï, mais ils sont certainement de façon bien plus nombreuse et bien plus régulière. Et c'est là que, justement, il est probable que les modes d'exploitation et de fréquentation des lieux ont fondamentalement changé.
Là, après cette découverte, ça a été impossible de retourner faire des fouilles au Sinaï pendant longtemps pour des raisons politiques. Là, vous avez recommencé à y retravailler depuis 2022, il me semble. Quelles sont justement les questions qui sous-tendent ces fouilles ?
Alors, l'objectif de départ était, puisqu'on avait aussi travaillé sur les ports de la mer Rouge, d'essayer de suivre des expéditions égyptiennes pratiquement sur l'ensemble de leur parcours. Elles partent des capitales égyptiennes, elles entraînent avec elles un personnel qui est d'ailleurs un personnel qui travaille en façon permanente pour la monarchie, hein, ce sont des spécialistes qui vont dans ces expéditions, et elles transitent par les rives de la mer Rouge, qu'elles traversent ou qu'elles contournent, peut-être les deux d'ailleurs, avant de se retrouver au Sinaï, où on a là, pour le coup, les lieux d'exploitation même du minerai, qui peuvent être accompagnés justement d'un processus commémoratif au travers notamment des inscriptions rupestres. Et puis on a, dans certains cas, des sanctuaires qui sont dédiés à des divinités locales, c'est le cas à Serabit el-Radi, où on a un très beau temple d'Hathor qui est préservé, qui est d'ailleurs fait à grande échelle. Et donc, on a toute une série de sources extrêmement importantes. Donc, l'objectif de ces missions était de mieux connaître l'ensemble des missions, leurs conditions de vie, les campements qui pouvaient être associés à cette occupation. Bien évidemment, avoir des inscriptions parce qu'elles nous permettent de savoir combien d'expéditions il y a eu, à quelle date exactement elles ont pu se dérouler. Et au travers des expéditions, des inscriptions également, on peut parfois retrouver des textes qui nous donnent exactement la composition de l'équipe. On sait qu'il y a à l'intérieur tant de carriers, tant d'hommes de main, tant de jardiniers parfois. On a toute une série de corps de métier qui peuvent être impliqués dans ces opérations.
Alors, quels sont ces corps de métier et comment justement s'organiser ces différentes expéditions ? Dans quelques instants, on va se rendre dans les ports antiques de la mer Rouge. On part découvrir ces bateaux, ces bateliers et ces plus anciens papyrus manuscrits. Restez avec nous. Kalsoum, légendaire chanteuse égyptienne sur France Culture, car nous continuons notre série spéciale consacrée à l'égyptologie avec un grand entretien aujourd'hui avec Pierre Tallet, professeur d'égyptologie à Sorbonne Université et directeur de l'IFAO du Caire. Spécialiste de l'Égypte pharaonique, vous explorez les archives, les ports antiques, les inscriptions du désert. Vos travaux renouvellent notre compréhension de l'économie, des expéditions et le pouvoir royal. Et on continue de parler de vos différentes missions archéologiques en Égypte, et notamment ces ports antiques de la mer Rouge. On a plusieurs vestiges, et notamment le site de Wadi El Jarf. On est là sur la rive ouest du golfe de Suez. À quoi ressemble ce site ?
Alors c'est un site qui n'est pas forcément tout de suite évident, puisqu'il avait été découvert à plusieurs reprises. En fait, on a une première description de ce site, ou au moins d'une partie de ce site, par des explorateurs anglais du début du 19e siècle. John Gardner Wilkinson, qui est un des premiers grands explorateurs britanniques, et qui a d'ailleurs laissé le premier guide touristique pour l'Égypte, hein, avait reporté la découverte à 5 km de la côte d'une zone où il y avait des galeries creusées dans la montagne, qu'il avait identifiées à des catacombes d'époque gréco-romaine parce qu'il y avait trouvé à l'intérieur des céramiques et du bois brûlé en fait à la base. Ce site avait été ensuite redécouvert par des pilotes de bateaux hein, du canal de Suez, des Français cette fois-ci, qui étaient venus d'ailleurs, suivant les indications, je pense, de leurs prédécesseurs, et qui avaient retrouvé cette même zone des galeries. Mais là, ils avaient été un peu plus loin, parce que ces galeries creusées dans la montagne, ils avaient dedans retrouvé effectivement les mêmes céramiques, parfois bien construites, bien préservées, ce sont des grosses jarres de stockage, et ils les avaient datées quand même de l'ancien empire égyptien, de la 6e dynastie, autour de 2200 avant Jésus-Christ. Ils auraient voulu fouiller le site, mais en 1956, ils ont dû partir en raison de la crise de Suez et le site a été oublié à nouveau pendant assez longtemps. Et c'est grâce en fait à leurs papiers que nous avons pu retrouver le site, également grâce à l'observation du programme Google Earth, ce qui permet de voir parfois des vestiges à distance. Mais nous cherchions ce site depuis un petit moment lorsque nous l'avons retrouvé en 2008. Alors en fait, ce n'était pas entièrement un hasard si nous cherchions ce site, parce que nous avions auparavant fouillé un autre site portuaire à Ain Sourna, un peu plus au nord, sur le golfe de Suez, et nous avions compris une chose assez importante, qui est que lorsque l'on a en mer Rouge un port pharaonique, il faut qu'il y ait un système de galeries creusées dans la montagne associé. Pourquoi ? Parce que à l'époque pharaonique, eh bien, il n'y a pas de connexion entre la mer Rouge et le fleuve Nil, il n'y a aucun canal qui permette de faire cette liaison. Donc ils s'étaient obligés à cette époque-là de transporter leurs bateaux en pièces détachées depuis la vallée du Nil jusqu'à la côte de la mer Rouge. Il les remontait pour pouvoir les utiliser sur la mer Rouge. Et lorsque l'expédition était terminée, eh bien, plutôt que de rapporter ces bateaux dans la vallée du Nil, on avait meilleur temps de les laisser sur place dans des abris, dans des magasins qui étaient creusés dans la montagne pour eux. Et donc, on connaît maintenant 3 ports sur la mer Rouge et ces 3 ports sont toujours organisés de la même façon. Évidemment, un espace littoral où les bateaux vont être mis en jeu, mais aussi à l'arrière, un espace de galerie creusées dans le rocher et qui sont parfois d'ailleurs, je dirais, scrupuleusement condamnées, dans lesquelles les bateaux sont rangés entre deux expéditions.
Alors sur le site de Wadi El-Jarf, on a aussi un mystérieux bâtiment qui est situé entre la zone portuaire et la zone des galeries, c'est ça ?
Alors il y a plusieurs sites, ce site est très bizarre parce qu'il s'étend sur 5 km à peu près, même un peu plus parce qu'il est à l'aplomb d'une source naturelle. Alors il faut de l'eau hein, quand on fait venir dans le désert comme ça des milliers de personnes pendant plusieurs mois, on a absolument besoin d'avoir une ressource en eau qui ne soit pas trop lointaine. Or il y a dans le monastère actuel de Saint-Paul une source qui s'appelle Ain Mariam, et cette source devait déjà exister à l'époque pharaonique et elle est certainement l'une des raisons de l'installation des Égyptiens sur le site. Mais par ailleurs, le site s'étire sur 5 km. On a à 5 km de la côte les galeries creusées dans la montagne, il y en a une trentaine. Pourquoi sont-elles à 5 km du rivage ? Tout simplement parce que c'est le premier endroit où on trouve du rocher pour pouvoir creuser. Et donc c'était un site qui était pour les Égyptiens assez compliqué parce qu'ils devaient être à la fois sur la côte pour pouvoir monter les bateaux et les faire naviguer bien sûr, mais ils devaient également être en retrait de 5 km de la côte pour pouvoir justement stocker les bateaux faire une certaine partie des opérations qui étaient nécessaires dans le port. Donc ils ont équipé l'ensemble de cette zone de plusieurs installations et entre la mer et la montagne, je pourrais dire, il y a aussi un énorme bâtiment qu'on a appelé le bâtiment intermédiaire qui est en fait un camp qui était apte à accueillir plusieurs centaines de personnes.
Et dans ce camp, d'ailleurs, vous avez retrouvé un certain nombre d'éléments, des terrines qui servent à cuire le pain, des petits galets, puis aussi de curieux jetons.
Oui, alors c'est assez intéressant parce que alors ce site avait été occupé, encore une fois, ça n'a pas forcément duré très très longtemps, peut-être une cinquantaine d'années, mais sur ce site du bâtiment intermédiaire, on a 2 niveaux d'occupation. Un premier, un bâtiment magnifique, mais alors vraiment magnifique, 13 grandes pièces allongées, conservées parfois les murs jusqu'à 2 mètres de hauteur. Enfin, le bâtiment est intact, il était complètement réensablé. Et quand nous l'avons nettoyé, on est arrivé au sol, et sur le sol, tout avait été parfaitement nettoyé, le bâtiment était prêt à resservir. Bon, un peu frustrant pour les archéologues, parce que quand on trouve pas un seul tesson, pas un seul mobilier dans un bâtiment comme ça, ben on a quand même assez peu d'informations. Mais heureusement, on s'est rendu compte que sous ce bâtiment super bien construit, il y avait une occupation antérieure en cellules très large aussi, et on pouvait y accéder en démontant les sols du premier bâtiment pour accéder au niveau inférieur. Et là, tout a été en place. Il y avait des céramiques, il y avait des coquillages, et on a retrouvé toute une série de petits ostracas. Alors, ce sont des galets qui étaient simplement pris dans les déserts avoisinants, mais qui portent des indications écrites ou chiffrées dessus. Et au départ, on n'a pas compris d'ailleurs ce que c'était. On avait donc un galet normal, et puis il y avait un chiffre écrit sur une face et un autre chiffre écrit sur l'autre. Il nous a fallu un moment pour comprendre de quoi il s'agissait. Au départ, on s'est dit, mais ce soit des poids pour peser quelque chose. Mais en fait, en pesant plusieurs de ces éléments avec des chiffres différents, ça ne marchait pas. Et on a fini par comprendre que ce que l'on avait là, c'était un système interne au camp, avec des contremarques qui devaient servir à obtenir une ration de grains pour les ouvriers qui travaillaient dans ce camp, justement. Et en fait, la monnaie de l'époque, c'est un galet que le scribe inscrit en rouge, où il met la marque de la quantité de pain que l'on peut obtenir en échangeant cette contremarque contre une ration alimentaire.
Ces ouvriers qui travaillaient dans ce camp, vous avez évoqué à peu près des milliers de personnes sur place. Comment on arrive justement à évaluer le nombre de gens qui travaillaient là ?
On a du mal, en fait, à savoir exactement quel était le nombre des ouvriers qui étaient employés dans ce port. Ça pouvait d'ailleurs varier, parce que le port, d'une part, est en fait l'objet de travail, d'un travail de spécialiste, hein, puisqu'il faut des charpentiers pour monter les bateaux, il faut des potiers pour faire les grandes jarres de stockage qui permettent de conserver l'eau sur place, hein, ils stockaient l'eau pour pouvoir accueillir justement un grand nombre de personnes. Mais au-delà des gens, des spécialistes qui sont là pour le port, il y a aussi une force de manœuvre qui, là, pour traverser le golfe de Suez et pour aller de l'autre côté au Sinaï et pour pouvoir aller travailler dans les mines. Donc, on n'a pas toujours le même volume de personnes qui doivent être sur le site du Wadi Jarf. Alors, pour estimer leur nombre, ben on calcule d'après les capacités de logement que l'on a dans les camps. On essaie de voir également, d'après la documentation écrite que l'on a retrouvée, à quoi cela peut correspondre. Et puis on a des noms d'équipes. On sait que par exemple, une équipe égyptienne, en principe, elle comporte 120 personnes. Donc comme on a à peu près, je dirais, une dizaine de noms d'équipes, on pourrait multiplier simplement ce chiffre par 10. Mais on n'est pas sûr qu'elles aient toutes été là en même temps.
Et par rapport à ces bateaux également, vous décrivez des bateaux qu'il faut démonter, remonter. On sait à quoi ressemblaient ces bateaux égyptiens ?
Alors, on ne sait pas forcément tout à fait bien à quoi il ressemblait, en tout cas pour le règne de Khéops, puisqu'en fait ce camp et ce port du Wadi Jarf, c'est quasiment exclusivement le règne de Khéops, hein, c'est-à-dire on est autour de 2550-2600 avant Jésus-Christ, et le port a fonctionné très très peu de temps, ce qui d'ailleurs a occasionné la perte de beaucoup d'éléments qu'on est heureux de retrouver maintenant, qui n'ont pas été perturbés par la suite. Mais donc, les bateaux, on peut les connaître parce qu'on retrouve des fragments de ces embarcations dans les galeries. Alors, les galeries ont été pillées. Je pense que ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont récupéré tout ce qui était encore de valeur dans les galeries au moment où ils se sont rendus compte qu'ils allaient abandonner le port et s'installer ailleurs. Donc il y a une sorte d'autopillage qui s'est effectué. On n'a pas retrouvé de bateau entier. Mais par contre, on a tous les éléments cassés de ces bateaux. On a des petits bouts de bois qui étaient plus utilisables, des morceaux qui étaient trop endommagés, peut-être un peu corrompus, qui n'ont pas été récupérés. On a beaucoup de cordages, on a des pièces d'assemblement, on a des pièces de tissu qui sont imprégnées de résine, qui peut-être participaient à l'étanchéification de la coque de ces embarcations. Donc on a quand même beaucoup d'éléments, et à terme, quand on aura vraiment tout étudié, mais on a encore plusieurs années à passer dessus, et il y a plusieurs spécialistes actuellement qui travaillent notamment sur les vestiges de bateaux, eh bien on aura peut-être une meilleure idée de ce à quoi pouvaient ressembler ces embarcations, qui sont des embarcations conçues spécifiquement pour la navigation en mer.
Et puis on a aussi retrouvé, pas de bateau entier, mais on a aussi retrouvé au fond du bassin des ancres pharaoniques.
Alors on a effectivement eu la chance, alors on a fouillé au bord de la mer toute une série d'installations, puisque le port du Wadi Jarf comprend une jetée construite artificiellement. Nous sommes en face du probablement du plus ancien port artificiel construit directement en milieu maritime, enfin que l'on connaisse actuellement. Et à proximité de cette jetée, on a retrouvé toute une série de campements également pour sans doute les charpentiers qui étaient chargés d'assembler les bateaux, de les monter puis de les démonter. Et à cet endroit-là, on a retrouvé des ancres de bateaux. Alors il y a des ancres de bateaux dans le bassin du port, il y en avait une vingtaine, mais surtout on s'est rendu compte en fouillant les campements qu'il y avait dans cet endroit une centaine d'encres de bateaux qui avaient été rangées à cet endroit-là. En fait, ils n'avaient pas pris la peine de transporter les encres, qui sont relativement lourdes, jusqu'à la zone des galeries à 5 km. De façon plus opportuniste, ils l'avaient simplement rangé dans leur campement au moment où ils étaient partis. Et ces encres, eh bien, sont très intéressantes parce que quand on les a fouillées, alors on est à 200 mètres du rivage, on travaille dans du sable mouillé, et pourtant, une majorité de ces encres avaient encore des inscriptions dessus. On avait des inscriptions au charbon, très fragiles, et des inscriptions à l'ocre rouge, et ces inscriptions nous donnent les noms des embarcations qui étaient finalement les propriétaires de ces encres.
On a des noms de bateaux.
On a des noms de bateaux. Et ça, c'était une découverte absolument fantastique parce que, alors c'est des inscriptions très grossières, hein, qui sont faites probablement au moment du rangement parce qu'on peut pas imaginer que ces inscriptions auraient survécu si elles avaient été immergées dans l'eau de mer. Mais en fait, ces inscriptions nous donnent les noms des bateaux et selon un programme politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un bateau qui s'appelle Kai Ejet, ce qui veut dire celui qui exalte la couronne blanche. En fait, c'est une épithète du roi en tant que roi de Haute-Égypte. Et puis, un autre bateau s'appelle celui qui honore la divinité Wadjet, qui est une divinité, cette fois-ci, de Basse-Égypte. Là encore, c'est une épithète royale qui insiste sur le rôle du roi en tant que roi de Basse-Égypte. Le troisième bateau s'appelle Neptawi, le maître des deux terres, qui est l'épithète la plus courante du roi. Et le dernier bateau s'appelle Les Vivants, et c'est le peuple. Et on a l'impression qu'avec les quatre bateaux qui sont nommés dans ce dépôt, eh bien, on a une image de l'Égypte. Le roi de Haute-Égypte, le roi de Basse-Égypte, le roi dans sa capacité d'unifier l'ensemble du territoire et le peuple égyptien.
Le peuple égyptien va encore partir à sa rencontre grâce à la découverte la plus importante que vous avez faite. Vous l'avez trouvée devant l'une des galeries du site de Wadi El-Jarf. Ce sont les papyrus égyptiens. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et l'archéologue Pierre Tallet nous raconter ces différentes expéditions archéologiques qui débusquent des pépites de l'Égypte pharaonique. Pierre Tallet, une de vos découvertes les plus importantes, ce sont ces papyrus. Vous avez commencé à fouiller le site de Wadi El-Jarf en 2011. Deux ans plus tard, tout à coup, vous faites cette découverte inattendue, un lot de papyrus de l'ancien empire. Comment vous avez fait cette découverte ?
Alors effectivement, on ne s'attendait pas du tout à trouver ce type de matériel sur le site. En fait, quand nous avons commencé à travailler, nous savions qu'il y avait des inscriptions sur des poteries, par exemple. Et on avait malgré tout trouvé, dès la première année, des petits fragments de papyrus, mais très délavés et sans aucune inscription. Et c'est en 2013, dès le début de la campagne de fouilles, que nous avons commencé à sortir des petits fragments de papyrus. Et cette fois-ci, marqués avec de l'encre rouge et de l'encre noire, très 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 lisibles. Et là, on s'est dit quand même, c'est très intéressant parce que d'après le contexte archéologique, hein, tout est parfaitement scellé. Hein, on est dans des niveaux qui sont bien datés et le site n'a jamais été occupé véritablement, à part à l'époque de Khéops et de son prédécesseur Snéfrou, autour de 2600 avant Jésus-Christ. Donc dès qu'on a commencé à trouver ces petits fragments, on s'est dit, mais on est peut-être en présence des papyrus les plus anciens qu'on ait jamais découverts parce qu'on n'a jamais eu de papyrus du règne de Khéops, en fait, jusqu'à présent. Et au fur et à mesure que la fouille s'est développée, eh bien on a trouvé des morceaux de plus en plus importants de ces papyrus, parfois des fragments qui avaient cette fois-ci non pas la taille d'un doigt, mais la taille d'une paume de main, avec beaucoup plus d'informations, des papyrus comptables qui enregistraient des aliments. Et pour finir, on a fouillé l'ensemble de la zone où on trouvait ces papyrus. Il restait un endroit à fouiller, c'était l'espace qu'il y avait entre deux gros blocs de calcaire qui bouchaient une galerie. Il n'y a plus que ça à fouiller, et puis on s'est dit, bon, bah, c'était fini. on avait fouillé tous les papyrus, on avait déjà trouvé, on était déjà très très contents, hein, on avait trouvé, je dirais, une dizaine de jolies pièces de papyrus. Et en fouillant, évidemment, pendant les derniers jours de la fouille, ce petit puits qu'il y avait entre deux gros blocs de calcaire, eh bien, on s'est rendu compte que 80% des papyrus se trouvaient là. Et donc là, ça a été des journées assez folles parce que il a fallu sortir les papyrus, il a fallu les traiter, les dérouler, les mettre sous verre dans un temps relativement limité parce que c'était la fin de la campagne de fouille. Et c'est là qu'on a trouvé les papyrus les mieux conservés et ceux qui étaient certainement les plus informatifs.
Vous faites l'édition systématique justement de tous ces documents, vous les traduisez, vous venez d'ailleurs de finir le quatrième volume qui va paraître bientôt.
Voilà, alors effectivement ces papyrus sont très très importants parce que ils nous informent sur un état de la société égyptienne qu'on connaît mal. L'époque de la quatrième dynastie, donc ces rois qui sont quand même relativement connus, hein, Snéfrou, Khéops, ce sont des rois qui sont connus par leurs monuments. On a des inscriptions officielles de hauts fonctionnaires dans leurs tombes, mais on a très peu d'informations sur la vie quotidienne et sur le peuple égyptien finalement. Or, au travers de ces papyrus, on a un aperçu par exemple des rations alimentaires qui pouvaient leur être versées et on a aussi des journaux de bord par lesquels ces équipes d'ouvriers nous rapportent ce qu'elles font. Ce qui est tout à fait précieux évidemment pour savoir comment s'organise le travail à cette époque-là. Et quand on s'intéresse aux pyramides, alors moi je m'intéresse pas forcément exclusivement aux pyramides et je suis venu à ça par hasard, mais au travers de ces papyrus on a en quelque sorte l'envers du décor de la construction des pyramides.
Cet aperçu des ratios alimentaires, c'est ce que vous décrivez d'ailleurs dans votre dernier ouvrage Cuisine et saveurs de l'Égypte ancienne aux éditions Actes Sud. Je propose un extrait. Les livraisons de nourriture à l'équipe sont sommairement signalées dans les journaux de bord, où elles sont d'ailleurs régulièrement indiquées en rouge, signe de l'importance qu'elles revêtent pour les rédacteurs de ces textes. On parle le plus souvent de l'arrivée de vivres, mais il peut être fait une mention plus précise du pain, de la bière, voire de l'attribution d'un produit spécifique. Dans le papyrus B est ainsi mentionnée une livraison de 40 sacs de pain, probablement plus d'une tonne de pain, qui correspond à l'approvisionnement de l'équipe pour une durée d'un mois. Ces transferts de nourriture sont confiés à un personnel spécifique, qui peut être constitué de bateliers ou bien à des fourriers qui peuvent alternativement effectuer par voie terrestre la liaison avec le centre d'approvisionnement d'État le plus proche du cadre de la mission. Les documents comptables fournissent quant à eux une liste assez complète des produits dont peuvent bénéficier les équipes d'ouvriers royaux. Deux d'entre eux, le papyrus H et S, nous permettent même d'entrevoir avec une certaine précision quelle est la ration alimentaire de base dont bénéficie un ouvrier employé par l'État au temps de Khéops. On a accès à une quantité d'informations absolument incroyable avec ces documents.
Alors effectivement, c'est assez surprenant parce que on voit déjà une organisation comptable tout à fait précise, hein, exceptionnelle même, puisque ce sont des tableurs que l'on a. On va avoir d'un côté les produits, de l'autre côté finalement les dates et avoir des montants pour chacun des produits qui sont distribués aux ouvriers. Donc tout est calculé, tout est parfaitement calculé par l'État. Et en fait, on comprend comment on peut être capable de construire des pyramides et avoir des projets aussi importants parce que vraiment l'administration est entièrement présente et elle est extrêmement précise dans ses calculs. On voit aussi que on a des équipes d'ouvriers qui ne sont pas, comme on le dit souvent ou comme on le croit d'après la mythologie et les films anciens, des foules d'esclaves très très nombreuses qui construisent sous le fouet les monuments royaux. En fait, il s'agit d'ouvriers qui sont des ouvriers spécialisés, qui ont donc la maîtrise technique parfaite des tâches qu'on leur confie et qui en retour sont pas très 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 bien traités par la monarchie. Et on le voit notamment au travers non seulement du volume de l'approvisionnement qui leur est destiné, mais aussi de la qualité des produits que l'on voit leur être versés. Alors, ils n'ont pas seulement... Alors, le pain, bien sûr, et la bière sont les éléments de base de leur alimentation, donc les céréales sous diverses formes, et la bière qui peut être livrée sous la forme en kit, en quelque sorte, avec les éléments qui permettent de la fabriquer. Mais on voit qu'ils ont aussi accès à des produits qui sont plus rares. Alors, bien sûr, ils ont du poisson, il y a de la viande qui apparaît également dans ces registres. registre. Il y a du vin également, qui est quand même un produit relativement précieux et assez rare, notamment à l'ancien empire égyptien. On y retrouve également des livraisons de miel. Alors ça paraît banal le miel, mais à l'époque égyptienne, je crois qu'on a que, pour l'ancien empire, il y a que 3 ou 4 documents qui parlent du miel. Il semble vraiment réservé à une élite extrêmement restreinte à cette époque-là. Et pourtant, le premier document comptable qui parle de miel, ben c'est un document comptable qui concerne des ouvriers qui travaillent sur le site du Wadi El Jarf. Donc ils ont accès à une alimentation qui est à la fois variée et parfois relativement prestigieuse. En fait, tout simplement, ils sont greffés sur les circuits d'approvisionnement de la cour et de l'ensemble de l'administration qui en découle.
Voilà, on a des ouvriers qui sont très bien traités par le pouvoir qu'ils servent finalement. Comme vous dites, ça va complètement à l'encontre des images qu'on se fait comme dans les péplums.
Exactement, exactement. Et puis, en fait, il y a un certain nombre d'équipes qui ne trompent pas d'une certaine façon. Une des équipes que l'on a au Wadi El Jarf s'appelle « Ceux qui sont connus du roi Khéops ». Eh bien, cette formulation me paraît pouvoir faire allusion au fait que, au moins une fois dans leur carrière, ces ouvriers auront été mis en présence du roi lui-même. Il y a une proximité entre ce pouvoir royal et ces ouvriers. D'ailleurs, en fait, bon, alors, on a ces registres d'approvisionnement, hein. On parle du Wadi El Jarf, mais en fait, les gens qui travaillent sur le site du Wadi El Jarf sont aussi ceux qui travaillent auprès de la pyramide du roi. Et donc, ils sont installés, ils vivent à côté du complexe funéraire royal, ils sont sous les fenêtres du palais royal. Et on a même l'impression, d'après l'un de ces documents, que ces ouvriers, ces équipes d'ouvriers sont aussi investis d'une forme de responsabilité dans le culte royal. Donc il y a une symbiose entre cette force dans cette main-d'œuvre spécialisée, élitaire, et le pouvoir monarchique. C'est assez clair et ça transparaît très très bien de la documentation qu'on a pu réunir au Wadi Jarf.
La pratique du journal de bord, c'est quelque chose de courant durant l'ancien empire ?
Alors, on sait qu'il y avait des journaux de bord, mais ce sont les plus anciens qu'on ait jamais retrouvés. Il y a d'autres exemples, hein. On a des exemples pour des dynasties postérieures où on a justement l'enregistrement du travail. Et ça a dû être un type documentaire très répandu. Mais le fait est qu'on en a retrouvé que sur le site du Wadi Jarf, pratiquement, pour la période, en tout cas, de la 4e dynastie, on n'a rien d'autre. On en a quelques autres exemples sous les 5e et 6e dynasties, mais beaucoup plus fragmentaires.
Quels sont, parce que là on parle de ces ouvriers, mais est-ce qu'on sait ce qu'on trouvait dans les cuisines des Égyptiens de cette époque ? Plus largement, vous évoquiez le poisson, le céréales et pain. Est-ce que je ne sais pas quels étaient les usages finalement de la population ?
Alors là encore, on n'est pas toujours très très bien informé. Bon, et même mes papyrus n'en donnent pas beaucoup plus finalement sur ce point, puisque ils vont enregistrer des produits bruts. Simplement, on voit qu'il y a quand même de multiples type de pain qui existe, des pains qui sont visiblement des pains très compacts qu'on va faire cuire dans des moules et qui ont probablement la propriété de se préserver un certain temps. On a également des livraisons de pains en forme de galettes, hein, semble-t-il, d'après la forme que l'on voit sur leur représentation et qui sont livrées en plus grande quantité de façon régulière. On a retrouvé effectivement sur le site du Wadi El Jarf, notamment, mais pas seulement, hein, un peu partout en Égypte pour les périodes correspondantes, les moules à pain et la tiraille qui permet de cuire ce pain, qui est vraiment la base de l'alimentation. Donc soit des moules à pain, où le pain est donc cuit dans une sorte de vase en forme de cloche, qu'on appelle le moule Bedja dans la documentation égyptienne, soit dans des sortes de terrines ouvertes qui sont placées sur le feu. Après ça, évidemment, il y en a encore d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, dans un des papyrus, moi j'ai la mention d'un gâteau chaït. C'est un gâteau triangulaire que l'on connaît aux époques postérieures et on sait que ce gâteau peut incorporer par exemple du miel ou des dattes. Et donc en fait ce gâteau il apparaît sans doute sous la période de Khéops puisqu'on en a une première mention. Donc on a quand même une idée de la façon dont on pouvait cuire les aliments, dont on pouvait les préparer. En tout cas, on a à notre disposition la série des ingrédients qui pouvaient servir la cuisine.
Vous m'ouvrez l'appétit. Pour conclure, Pierre Tallet, est-ce que ces papyrus, j'imagine qu'ils sont loin encore d'avoir livré toutes les informations qu'ils contiennent ?
Alors, je crois qu'on arrive un peu au bout quand même de ces informations, c'est-à-dire que moi j'ai pris le parti de publier systématiquement tous ces fragments. Alors, il y en a qui sont plus importants, hein, on a des fragments énormément de feuilles de papyrus qui sont parfois de l'ordre de 30-40 cm de long. Et là, il y a beaucoup d'informations. Mais il y a des petits fragments qui ont la taille d'une phalange, hein, qui sont quand même la majorité. J'ai recensé à peu près 1000 fragments sur l'ensemble de la documentation. Et il aura fallu, sur une bonne dizaine d'années, 4 volumes de publication pour arriver à présenter toute cette documentation. Donc là, maintenant, je pense que j'arrive au bout de la publication des informations. Maintenant, d'autres que moi en tireront certainement encore d'autres conclusions et d'autres informations pour eux, hein, après la mise à disposition de l'ensemble de cette documentation.
Bien, nous sommes arrivés au bout de cet entretien. Grand merci à vous, Pierre Tallet. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Mais pour prolonger l'écoute, votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, Cuisine et saveurs de l'Égypte ancienne, et qui en effet ouvre l'appétit, est à retrouver donc en librairie. Et tout de suite, on retrouve la chronique Avec Science. Mais notre semaine spéciale Égypte se poursuit en podcast. On vous remet en ligne les liens de nos précédentes émissions, Momies, Embaumées, C'est pesé, ou encore Archéologie sonore, et que chacun se mette à fouiller pour écouter l'intérieur d'un temple de l'Antiquité égyptienne. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la chronique Avec Science.
Quelle est la recette du béton de Pompéi ? En ce moment encore, et c'est assez méconnu, des scientifiques mènent des fouilles dans le cœur de la ville. Il y a encore des recherches à Pompéi, des excavations qui tentent d'éclairer à quoi ressemblait la vie avant la fameuse éruption de l'an 79. Les archéologues y ont découvert en 2023 une boulangerie, des maisons, des fresques, quelques squelettes humains, ainsi qu'un chantier de construction figé en plein travail. Ce site pourrait nous offrir une fenêtre directe sur la construction à l'époque romaine que l'on connaît déjà assez bien. Arnaud Coutelat est chercheur et archéologue dans le laboratoire AOROC, archéologie et philologie d'Orient et d'Occident du CNRS et de l'université PSL.
L'une des caractéristiques de la construction romaine, c'est d'avoir justement su s'approprier le mortier de chaux, cette technologie qui a été développée un peu partout en Méditerranée, notamment pour faire des sols, des revêtements décoratifs, mais les Romains ont su transposer la technique pour la construction en tant que telle, et on est passé de constructions en pierre de grands appareils à des constructions avec ce qu'on appelle le petit appareil, donc des petits moellons, qui vont être assemblés avec ce mortier de chaux, ce qui va permettre des constructions qui sont à la fois plus rapides, qui demandent moins de technique, de savoir-faire, et qui aussi vont être plus pérennes, et donner une forme de liberté aussi architecturale. Et on pense tout de suite aux voûtes, qui étaient connues par ailleurs en technique de grand appareil, mais qui vont pouvoir se développer et prendre des formes assez extraordinaires, jusque l'emblématique voûte du Panthéon, qui tient encore 2000 ans après, et qui est une véritable prouesse architecturale.
Il faut rappeler que 17 ans avant la gigantesque éruption qui a recouvert Pompéi de cendres, la ville avait été secouée par de violents tremblements de terre. Elle était donc en pleine reconstruction quand le Vésuve s'est vraiment réveillé. Cette nouvelle étude parue dans Nature Communications s'est intéressée à la composition des matériaux retrouvés sur le chantier et aux murs fraîchement construits juste à côté pour tenter de comprendre quelle était la recette de leur béton. Et on connaissait déjà la recette du béton romain. Il y a 3 ingrédients phares. Il faut de l'eau, un granulat comme du sable par exemple, et de la chaux. C'est l'ancêtre du ciment. Cette poudre blanche est obtenue en brûlant du calcaire à environ 900 degrés. À ce stade, on parle de chaux vive. Elle est ensuite éteinte avec de l'eau avant d'être mélangée au sable. La recette classique est donc simple. On fabrique la chaux, on l'éteint, puis on la mélange avec du sable. Ce que révèle l'étude, c'est que les Pompéiens modifiaient les étapes. Des analyses chimiques poussées indiquent que la chaux vive était directement mélangée à du sable volcanique avant d'y ajouter de l'eau. Un procédé qui produirait un matériau bien plus durable, mais il faut rester prudent sur l'étendue de l'interprétation.
Il faut vraiment distinguer d'un côté la méthodologie et les résultats, qui sont vraiment très intéressants, et d'un autre côté, ce qui concerne le postulat de base et leurs interprétations. Les résultats sont vraiment très intéressants. On a déjà la découverte de ce chantier en cours d'exécution, qui est quelque chose d'extrêmement rare, il est vrai, en tout cas avec cette qualité de découverte. Et donc, ce qu'ils mettent en évidence, c'est une correspondance entre leur tas de mélange sable et chaux et le nouveau mur qui a été construit au sein de cette maison. Et pour les deux, on a une même recette, proportion chaux et sable volcanique local, et aussi la présence d'indices d'emploi de chaux vive. Et c'est là où, en fait, il y a un gros souci. Ils considèrent que c'est la technique romaine. Pour eux, le chantier, et c'est aussi le titre de leur article, c'est ce chantier-là et les quelques résultats qu'ils ont par ailleurs leur permettent de réinterpréter la construction romaine.
L'emploi de chaux vives avec cette extinction à sec est intéressant. Lorsque la technique est bien maîtrisée, les réactions chimiques se poursuivent après la mise en place du béton entre les pierres. Résultat, le matériau devient en partie autoréparant. Il colmate les fissures qui pourraient apparaître bien plus tard. Seulement voilà, Pompéi, ce n'est pas tout l'Empire romain. L'Empire romain, c'est 500 ans d'histoire sur jusqu'à 5 millions de kilomètres carrés. D'autant que sur ce même chantier, du béton bien plus classique avec de la chaux éteinte a été retrouvée. Cela reste tout de même précieux de pouvoir documenter ainsi la diversité des techniques de construction. La suite, c'est tout ce que nous réserve ce site. C'est ici une première étude, plutôt de recherche fondamentale. On attend l'ensemble de la description de la fouille, et notamment d'un graffiti, qui pourrait éclairer la vie quotidienne d'un chantier il y a près de 2000 ans.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.